tous les frères du couvent, et qui portait la même tunique bleue et le kamilavkion sur son chef. « Ah, vous êtes les Français dont nous a parlé l'Igoumène !» demanda celui-là en les voyant entrer. Les trois compagnons hochèrent la tête. « Ah, quel plaisir de pouvoir parler votre langue !» s'exclama-t-il. « La langue du comte de Floire et Blanchefloor, et celle du chevalier de la Charrette !» « En plus d'un siècle, notre langue a quelque peu évolué, » fit remarquer Andreas en souriant. « Depuis, il y a eu le roman de la Rose, de Guillaume de Loris et Jean de Main, quoique l'image qu'ils y livrèrent de la femme soit tout à fait contestable. Il y a eu Jean et Blonde, par Philippe de Rémy, les fables de Marie de France. Et puis, tous ces récits aux auteurs inconnus, par Tonopéus de Blois, la quête du Saint Graal, La mort le roi Arthur, le roman de Renard. Et puis, il y a eu Ruteboeuf. Et puis, diantre, je vois que j'ai beaucoup de retard, mais quel plaisir tout de même. Depuis une vingtaine d'années, les visites se font de plus en plus rares ici, et c'est toujours une joie que de voir des Français. Vous avez en tout cas une magnifique bibliothèque. Je n'en suis que son gardien temporaire, monsieur, dit le caloyer humblement. C'est un beau privilège. En effet. Ah, voulez-vous que je vous la fasse visiter un peu? Nous serions vous obligés, répliqua Andreas enthousiaste. Parfait, parfait. Nous avons près de 3000 ouvrages différents dans ces murs. Certains ont plusieurs exemplaires. La plupart sont en grec, mais nous en avons aussi beaucoup en arabe et en syriaque, quelques-uns en hébreu, en araméen, en latin et en persan. Nous avons des manuscrits sur parchemin, bien sûr, mais aussi des rouleaux et quelques-uns sur papier, une matière que nous devons à la sagesse des inventeurs d'Asie, mais qui nous fut apportée par les Arabes. Vous connaissez le papier? Sans doute. On le fabrique en humidifiant et en faisant macérer des chiffons de lin ou de chanvre, précisa le moine comme s'il n'avait pas entendu la réponse d'Andreas. C'est une merveille. Le frère bibliothécaire se leva et commença à leur montrer les différents rayonnages de la longue salle ainsi que leur plan de classification. Les ouvrages étaient rangés par thème, puis les thèmes par format, puis les formats par ordre d'entrée. Ici, tout est fait pour le plaisir du lecteur et pour la mise en lumière de la vérité. Sénèque, dans De Tranquillitate Animi, disait très justement qu'une bibliothèque se doit d'être pratique pour l'utilisateur. Mais elle se doit aussi et surtout d'être le refuge de l'unique et absolue vérité, de l'auctoritas. La classification des thèmes, bien sûr, se fait dans un ordre ascendant vers Dieu. Ainsi, la bibliothèque est d'un seul tenant. Le sommet de la bibliothèque, c'est la Bible, qui doit nécessairement être placée dans le premier armarium, car à elle seule, elle englobe la totalité du savoir. Andreas se garda de tout commentaire, bien que, sur le sujet, il eût fort à dire ou à contredire, d'ailleurs. Voyez. Les usuels sont reliés aux étagères par une petite chaîne, les rouleaux sont dans les boîtes que vous voyez un peu partout, et les codices sont disposés à plat. Ici, donc, dans le premier armarium, sont toutes les copies que nous ayons des Anciens et Nouveaux Testaments, dont notre plus fameuse est le Codex Sinaiticus, que voici, et qui date du IVe siècle. Le bibliothécaire prit le trousseau de clés à sa ceinture et sortit méticuleusement le codex d'une petite niche fermée où il était isolé. Puis il le posa sur un pupitre, devant ses invités. L'amour qu'il manifestait à l'égard de ses livres était assurément chose réjouissante à voir. « Voyez sa graphie grecque en onciale, qui était d'usage à l'époque, et admirez l'excellente qualité du vélin et de l'encre, qui lui a permis de venir jusqu'à nous. Ce codex faisait partie d'un ensemble de 50 codices semblables, réunis par Eusèbe de Pamphile. Mais à ma connaissance, celui-là est le seul qui ait survécu. Splendide. Il